Et nous avançons dans ta présence, Seigneur, en cet instant avec crainte et tremblement. Et devant ta majesté, reconnaissant par là que nous sommes des pécheurs. Et nous te demandons de bien vouloir nous assister. Nous avons honte de nos péchés. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Veuille tout simplement nous pardonner nos péchés. Donne-nous la force ce soir, Seigneur, de tenir la place et de pouvoir aussi écouter dans un confort tel que l'esprit puisse bien appréhender les choses. Que tu sois honoré dans les cœurs de tes enfants. Pour nos nombreux péchés, nous te demandons, selon ta miséricorde, de bien vouloir nous pardonner. Bénis ta parole ce soir et inspire-la encore. Bénis les oreilles, oins-les, Seigneur, ainsi que la langue qui parlera. C'est ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons adressé notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Nous allons nous lever et nous allons lire dans Deutéronome chapitre 1er. Que le Seigneur vous bénisse tous. On commencera au verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Vous voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons-nous asseoir. Nous sommes là en présence de la terre promise telle qu'elle nous est décrite, n'est-ce pas? Elle est. Quand vous allez sur la montagne, vous allez donc dans le midi, sur la côte de la mer, à la mer, et puis il y a le fleuve d'Euphrate. Tout le pays est délimité. Le pays que le Seigneur donne à la postérité d'Abraham, à Abraham et à sa postérité. Et nous insisterons là-dessus ce soir, nous insister, c'est beaucoup dire, disons que nous nous arrêterons là-dessus. Et nous intitulerons le sujet de ce soir « Et à leur postérité après eux ». Abraham, Isaac et Jacob ont possédé ce pays. Ils y ont habité. Ils y ont vécu. Et malgré qu'il y avait parfois certaines, ils ont rencontré certaines difficultés, lorsque les Philistins venaient les empêcher de pouvoir ainsi creuser leur puits. Mais ils y demeuraient. Les Philistins ont tout fait pour les décourager. Mais tant qu'ils étaient dans le pays, dans les limites qui sont fixées là, ils étaient bénis. Amen. Tout comme nous de même, tant que nous restons dans les limites où Dieu nous a placés, où Dieu veut nous placer. Il nous a, comme il dit dans Éphésiens, chapitre 1er, il dit, béni soit, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pas n'importe où, mais dans les lieux célestes en Christ. Ça va? Et c'est là que le Seigneur nous place, il nous place en Christ, afin que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions qu'il nous a ainsi promises. Alors, c'est pour la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, nous savons ceci. Dans Galates chapitre 3, que la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi. Ça va? C'est pas à regarder une certaine généalogie selon la chair. Non, il ne s'agit pas de cette postérité-là. Il s'agit de ceux qui ont la foi. Dans Galates chapitre 3, verset 6, il nous est dit, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Ne pensons pas que Abraham a eu facile lorsqu'il était en terre promise. Que, qui ça? Isaac a eu facile. Non. Nous avons déjà parlé de ça, nous avons déjà dit. Abraham, là où Dieu l'a placé, dans le naturel, Abraham, pour avoir de l'eau, il devait creuser des puits. Ce n'est pas que l'eau lui venait comme cela. Non, il devait travailler, il devait creuser des puits. Et les fils d'Abraham, Isaac, Jacob, lorsqu'ils creusaient, n'est-ce pas? Eh bien, ils devaient creuser jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau vive. Pas de l'eau stagnante, mais de l'eau vive. Ils ne creusaient pas, n'est-ce pas, pour paresseusement. Si on regarde dans Genèse chapitre 26, Genèse 26. Et l'eau vive est un type du Saint-Esprit. Donc, nous voyons au verset 15, pour que les troupeaux d'Abraham puissent boire, puissent être abreuvés. Et ils étaient nombreux, donc ils ne se contentaient pas de petits puits. C'était des puits assez conséquents. Alors, dans Genèse 26, verset 15, nous lisons « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. » Donc, il s'agit d'Isaac ici. « De son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Vous voyez? Donc, ils creusaient. Vous savez, les Philistins sont là parce qu'ils n'ont pas été chassés par les Israélites lorsque Josué les a conduits dans la terre promise. Ils ne les ont pas chassés et les Philistins faisaient partie de ces peuples au travers desquels Dieu allait les éprouver. Dans Juges chapitre 3, nous voyons ceci. Voici, verset 1er, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins. Vous voyez? Tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient, ainsi de suite. Verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Abraham a été éprouvé. Sa foi a été éprouvée. Isaac également, c'était difficile de croire que le Dieu créateur des cieux et de la terre nous a donné cette terre et sur cette terre, on soit obligé à creuser des puits pour y avoir de l'eau. Donc là où Dieu nous donne, on a tendance à dire, à se dire que tout ce dont nous avons le besoin, c'est vrai, se trouve en sa main, mais que ça nous vient comme cela, étalé à nos pieds. Non, monsieur, il faut travailler. Et Abraham a été éprouvé aussi. Abraham, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Abraham s'est exécuté. Isaac, en tant que fils d'Abraham, a été éprouvé. Jacob a été éprouvé. Et ainsi de suite, mis à l'épreuve. Les Israélites, lorsqu'ils ont eu la terre promise, ils sont passés à l'épreuve. Cette épreuve consiste justement à montrer que vous êtes réellement postérité d'Abraham et que vous pouvez prétendre à recevoir les promesses, à recevoir les choses que Dieu a promises. Que maintenant, que ce territoire est à vous. Amen. Vous savez, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Cette persécution, c'est une manière de voir si oui ou non, vous êtes fils ou fille d'Abraham. Amen. Quand vous allez revendiquer votre territoire, ici dans le naturel, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec sa carte d'identité ou les papiers. De toute façon, les papiers, la carte d'identité doit montrer que vous êtes bien vous, n'est-ce pas? Et que vous pouvez prétendre à la promesse. Eh bien, pour ce qui est des promesses de Dieu, on n'a pas besoin de carte d'identité. Dieu lui-même peut voir notre identité. Il peut voir notre identité par la foi que nous avons manifestée. Ouais. Et ne vous en faites pas, lorsque nous lisons toutes ces promesses qui sont là-bas, qui sont dans ce livre, et ces promesses, elles sont à nous, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre foi sera éprouvée. L'enlèvement est une promesse. Ben, la foi que nous avons en l'enlèvement, elle sera éprouvée. Et une des grosses épreuves où beaucoup d'Israélites ont échoué, c'est le temps. Quand le Seigneur tarde, selon nous, dans l'accomplissement de ses promesses, eh bien, disons-nous bien qu'il y en a beaucoup qui échouent. Ça va? Bien. Alors, il y a donc nécessité, avant de nous donner les territoires promis, que notre foi soit testée. Dans Jean 8, le Seigneur dit aux Israélites qui étaient là, il dit, vous êtes, c'est vrai, vous êtes de la postérité d'Abraham, mais il y a un problème. Dans Jean 8, et c'est valable pour nous également, verset 37, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ouais. Donc, quand Dieu parle à Abraham, à un fils d'Abraham, la parole pénètre. Mais en cela, la parole ne pénétrait pas. C'est déjà une chose. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ah, donc le père, ce n'est plus Abraham. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de vous. Cela, Abraham ne l'a point fait. Ouais. Donc, Dieu ne demande pas notre carte d'identité au moment où vous allez revendiquer votre colis, ce que vous avez demandé. On vous dit que cela a été livré, l'ange vous dit que cela a été livré, vous allez chercher. Dieu ne demande pas la carte d'identité pour vérifier si vous êtes réellement celui qui doit posséder le colis qui a été envoyé. Dieu regarde si réellement vous avez la foi. N'est-ce pas? Et Pierre dit ceci, que notre foi, elle est éprouvée. C'est-à-dire, si Dieu regarde si réellement nous avons foi. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation qui arrive, dans 1 Pierre, chapitre 1er, l'apôtre dit, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Ça, c'est un sujet qu'on verra peut-être ce dimanche, je ne sais pas. Il s'agit d'espérance, on verra bien. Je vous avais promis qu'on parlerait du culte avec piété et avec crainte. Toutes les choses ont changé. Alors, ce qui fait que ce soir, on regarde un peu, je suis là pour vous dire ce soir que la foi que nous avons, la foi, elle est éprouvée. Et lorsqu'elle est éprouvée, il y a certains, comme Hyménée et Philette, par exemple, il y a certains qui font naufrage par rapport à la foi. Il y a certains qui perdent la foi. Mais Paul dit, moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il ne l'a pas perdue. Alors, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, pas réservé à tout le monde, à ceux à qui Pierre écrit, mais ceux qui, par la puissance de Dieu, qui êtes gardés par la foi. Ils sont gardés par la foi pour le salut que Dieu a promis, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui. Donc, c'est par la foi que nous sommes gardés pour ce salut. Si nous perdons la foi, eh bien, nous perdons le salut. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Ça arrive. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, amen, l'épreuve de votre foi, elle est plus précieuse que l'or périssable et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, plus fort que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, l'or est éprouvé par le feu, mais les diverses épreuves par lesquelles nous passons, c'est notre foi qui est ainsi mise à l'épreuve. Car le pays que Dieu destine à Abraham, Isaac et Jacob, à leur postérité, ce pays-là, ce territoire, on ne l'obtient que par la foi. Parce que, c'est, en fait, cette question d'épreuve de la foi, elle est valable pour toutes les promesses que Dieu nous a faites. Dans Galates 3:16, l'apôtre dit ceci. Dans Galates 3:16, nous disons, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire que toutes les promesses faites à Abraham sont en Christ. Et ceux qui sont en Christ peuvent prétendre à toutes ces promesses-là pour aller les chercher. Donc, pour pouvoir obtenir cela, il faut être en Christ. Si vous n'y êtes pas, ce n'est pas pour vous. La terre promise, elle n'est pas promise à tout le monde. Elle a été promise à Abraham, Isaac, Jacob et à leur postérité. Et à ceux qui ont la foi. Or, la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi. Et quand nous disons que c'est valable pour toutes les promesses, quand le Seigneur donne la grande commission aux disciples, leur demandant d'aller prêcher la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 16. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, la bonne nouvelle est prêchée à toute la création, aux croyants et aux incroyants. Pour la prédication, c'est prêché à tout le monde. Amen. Alors maintenant, et c'est quoi la bonne nouvelle? Jésus est venu. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. La bonne nouvelle, ce n'est pas que la terre sera détruite. La bonne nouvelle, c'est le châtiment que je méritais est tombé sur quelqu'un d'autre. Désormais, je bénéficie de la grâce du Dieu vivant. Amen. C'est une bonne, c'est une excellente nouvelle. Quand nous recevons cette nouvelle, cela nous fait sauter de joie. Quand nous recevons cette nouvelle, cela nous fait, oh, cela nous fait éclater nos cœurs, n'est-ce pas? Quand nous recevons cette nouvelle, parfois, on est emporté, on peut même sauter. On peut, il y en a qui courent, il y en a qui claquent des mains, il y en a qui crient. Alors, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le salut, ce n'est que pour celui qui croira. C'est prêché à tout le monde. Il y en a qui croiront, il y en a qui ne croiront pas. Mais celui qui croira, qu'importe qui il est, on n'a pas cité de nom. Dites amen à ça. Donc, ça vous concerne. Ça me concerne, ça concerne tout le monde. Pour autant que j'y crois, lorsque j'ai entendu, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, maintenant, voici les miracles qui accompagneront tout le monde, toute la création. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces choses, c'est seulement pour ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, frère François, il y a une dame dans notre quartier, Madame Jones, est venue un jour dans la ligne de prière, n'est-ce pas? Elle a, on a prié pour elle, elle n'a jamais été guérie. Eh bien, c'est que ce n'était pas pour elle. Amen. Quelqu'un qui a besoin de guérison, qui a besoin d'une intervention divine, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Paul dit aux Corinthiens que toutes ses promesses sont amen. Tout ce qu'il a promis en Christ, il accomplit. Alors, maintenant, on a prié pour Madame Jones. Madame Jones a demandé quelque chose en prière, elle n'a pas reçu. Ben, elle peut aller se plaindre qu'elle n'a pas reçu, mais quand elle arrivera au jugement, il lui sera dit, Madame, cette promesse, c'est pour ceux qui ont cru. Dieu n'a pas menti. Tous ceux qui ont cru ont reçu. Et si vous avez des doutes, Dieu a des témoins. Tous ces gens dont Dieu a exaucé les prières. Oui. Et Dieu va les appeler les uns après les autres. Viens, quand tu as demandé, as-tu reçu ou n'as-tu pas reçu? Seigneur, j'ai reçu. Maintenant, il y en a d'autres. Parmi ceux qui ont la foi, on peut le voir. Hein. Attendez, ils saisiront des serpents. Dans Hébreux 11. Ça peut arriver aussi. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Donc, c'est dire qu'on sera nombreux. Comme les étoiles du ciel, demandez aux scientifiques il y a combien d'étoiles dans l'univers, eh bien, ils vous le diront. Nous serons nombreux. Est-ce qu'on va tous occuper la terre? Je n'en sais rien, moi. Ça va? Je ne sais pas. Mais, comme les étoiles du ciel, mais les élus seront peu. Jésus a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, n'est-ce pas? Comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est la postérité d'Abraham. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ça peut arriver. Mais, même si vous n'avez pas obtenu les choses promises, il y a ceci, ils les ont vues. Ces gens-là n'ont pas obtenu les choses qui leur ont été promises, mais ils ont vu cela. Ils ont vu comment? Par la foi. Ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quand ils ont demandé la santé, ils ont vu leur bonne santé. Lors de la résurrection, ils seront en très bonne santé. Lorsqu'ils sont tombés dans l'infirmité, eh bien, peut-être il y en a d'autres que Dieu a laissé mourir ici sur terre dans l'infirmité, mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles se couchent, ce sont des personnes qui savent que lorsqu'elles se relèveront, elles seront entières, elles seront sans infirmité. Un aveugle sait qu'il verra de ses yeux. Un sourd entendra. Et ainsi de suite. Et Dieu nous a montré que c'est possible. Dans Jean 9, nous avons l'histoire de cet aveugle de naissance à qui le Seigneur lui a montré, lui a donné la vue. Ces choses ont été faites pour nous montrer qu'il y a une vie meilleure, que ce que Dieu a promis, c'est une réalité. Et quand il nous a dit que la guérison sera sous son aile, eh bien, nous le croyons. Donc, c'est pour celui qui croira. Vous imposerez les mains, c'est pour celui qui croira. Le frère dit, c'est pour les croyants. Si vous n'avez pas la foi, l'évangile, la bonne nouvelle, ne vous fera aucun bien. Vous voyez, si l'évangile vous est prêché, l'évangile vous est apporté, et que vous n'avez pas la foi, eh bien, dites-vous bien que cet évangile que l'on vous prêche, ça fera du bien à ceux qui y croient, mais si vous n'y croyez pas, ça ne vous fera aucun bien. Car c'est pour les croyants. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient. Et toujours dans Hébreux, au verset 9, pour ce qui est de la terre promise, n'est-ce pas? Cette terre qui a été décrite dans Deutéronome, chapitre 1er, dont nous avons lu, au verset 9, il nous est dit qu'Abraham s'est établi là par la foi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Et la foi d'Abraham a été testée. La foi d'Abraham a été éprouvée. Abraham, il lui avait été promis une postérité. Et il a attendu 2 ans, 5 ans, 10, 15, 20, 25 ans. Oui. Et il a vu son corps s'user. Si Abraham a été éprouvé, il en va de même pour la postérité d'Abraham. Aujourd'hui, pour vérifier si vous êtes réellement le fils de telle personne, on procède au test génétique, au test ADN. Eh bien, c'est le test ADN du Dieu vivant. Les enfants de Dieu, ils ont dans leur ADN la foi. Amen. Et si dans l'ADN il y a la foi, c'est que vous êtes réellement un descendant d'Abraham. Gloire à Dieu. Donc, et cette postérité d'Abraham doit manifester en la promesse de Dieu, qu'importe la situation dans laquelle elle se trouve, mais en toute promesse de Dieu, là, ce sont des gens qui manifestent la même confiance qu'Abraham a manifestée. Quand Dieu lui dit à Abraham, donne-moi ton fils, l'unique, ton unique. Eh bien, Abraham n'a pas hésité une seconde parce qu'il savait que Dieu avait la capacité de ressusciter son fils. Il croyait en ce Dieu qui ressuscite les morts. Il avait confiance en Dieu. Et la Bible dit, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ils ont la même foi qu'Abraham. Ils ont la même foi qu'Isaac. Isaac, sa femme était stérile aussi, Rebecca. Mais Isaac savait que sa mère était stérile. Que ce même Dieu a fait que lui-même, il était un miracle. Et si Dieu avait fait ce miracle avec son père Abraham et sa mère Sarah, il est capable de le faire avec lui. Et il l'a fait. Alors que Rebecca était stérile, Dieu lui a donné des jumeaux. Ouais. Donc, Isaac et Jacob pour posséder le pays. Alors, Abraham a vu son corps s'user. Abraham a vu Sarah vieillir. Et surtout, ne plus être en état de concevoir. En état d'avoir des enfants. Sarah elle-même se demandait si Abraham pouvait encore avoir du plaisir. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans une situation où ils étaient, vu l'état de leur corps, ils étaient plus près de la tombe que lorsqu'ils avaient commencé à croire. Ils étaient si près de la tombe où leur corps était courbé vers la tombe, eh bien, malgré tout, ils continuaient à croire en la promesse divine. Malgré ce que le gynécologue a pu dire à Sarah, « Madame, il n'y a plus d'activité, c'est fini. » Eh bien, malgré tout cela, Abraham savait qu'il aura un fils, parce que Dieu le lui a promis. Dans Romains chapitre 4, verset 20, il ne douta point par incrédulité. Ça va? Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ça. Et la postérité d'Abraham, lorsqu'elle arrive au bord de, à la frontière de la terre promise, lorsque Moïse leur dit, Dieu a dit que vous allez posséder le pays à partir de tel endroit, dans le midi, sur la montagne, au bord de la mer et ainsi de suite, et bordé par l'Euphrate, lorsqu'ils arrivent là, eh bien, cette postérité, elle était là, malgré un rapport défavorable des espions qui sont allés voir si le pays était réellement un bon pays, ça ne se discutait pas. Que le pays était un bon pays. Malgré qu'ils avaient un mauvais rapport, Nombre chapitre 13. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, dans le désert de Paran, Verset 26. Les espions arrivent. Au verset 1er, on voit Dieu dit à Moïse, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Verset 26. À leur arrivée, donc au retour, verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Verset 26, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. C'était un rapport de découragement, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Donc, c'est une réalité. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. » Sur ça, l'Évangile n'a pas menti. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah. Oui. Le décor commence à être donné. Les villes sont fortifiées et très grandes. Donc, il n'y a pas moyen de faire un effet de surprise. Dès qu'on s'en prend à un pan du mur de l'autre côté de la ville, on le sait déjà. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Donc, si on va vers le sud, ce sont les Amalécites. Si on va à la montagne, il y a les Hétiens, les Jébusiens et les Cananéens, n'est-ce pas? Et les Amoréens, pardon. Si on va du côté de la mer, le long du Jourdain, là, il y a les Cananéens. Ce sont les enfants d'Anak. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Mais non, Caleb, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. » Oui. Mais non, Caleb, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Tu as bien vu, ils sont plus forts que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Écoutez, ce que Caleb vous raconte là, regardez comment ça se passe. Le pays qu'ils avaient exploré, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, avec Caleb ici, est un pays qui dévore ses habitants. Ça, c'est le rapport. Ah, et comment est-ce que vous êtes revenus? Nous ne sommes pas habitants, c'est pour ça que ça ne nous a pas dévorés. Mais eh bien, ceux qui y habitent alors, qui dévorent ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce qui est remarquable ici, c'est que la majorité vient. Il y en a 10 qui viennent avec un rapport qui est mauvais, de découragement. Il y en a un, Caleb, qui contredit leur rapport, disant que non, nous y serons vainqueurs. Josué, on ne montre pas Josué ici, mais certainement, comme c'est Josué qui devait faire entrer, plus tard, certainement Josué était du côté de Caleb. Parce que Dieu va dire, excepté Josué et Caleb. Alors, mais ce qui se passe, c'est que 10 prédicateurs prêchent, eh bien, toute l'assemblée préfère croire ces 10 prédicateurs-là. Verset 1er, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Mais en Égypte, vos enfants, vos femmes seront des esclaves. Alors, la véritable postérité, c'était aussi des descendants d'Abraham, ceux qui ont reçu ce rapport-là, toute l'assemblée. Ce sont des descendants selon la chair d'Abraham. Eh bien, devant Dieu, ceux-là, quand Dieu parle de fils d'Abraham, ceux-là ne sont pas fils d'Abraham. C'est ce que Jésus dit dans Jean 8. Il dit, vous faites les œuvres de votre père. Et c'est là qu'il réfute, il dit, non, notre père c'est Abraham. Jésus dit, c'est vrai, mais vous cherchez à me faire mourir. Ça, Abraham ne l'a jamais fait. Et quand il parle, donc ils sont tous là à dire que nous devions rentrer en Égypte. Tous ceux-là, la promesse, ce n'était pas pour eux. C'est pour, la promesse du pays, ce n'était pas pour eux. C'est pourquoi Dieu dit, allez, on retourne, on va en arrière, et jusqu'à ce que toute cette génération passe. Ce n'était pas pour eux. Malgré que ils ont eu la bonne nouvelle du fait que le pays était exactement tel que décrit par la parole de Dieu, eh bien, le pays n'était pas pour eux. Ils ont entendu la prédication. Et comme ils n'y ont pas cru que c'était pour eux, eh bien, ce n'était pas pour eux. Ils disent, nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas les attaquer, ils sont plus forts que nous. Eh bien, oui, c'est comme ça que pour vous, donc ce n'est pas pour vous. Tandis que pour un fils d'Abraham, non, Dieu a promis. Ils sont peut-être plus forts que moi physiquement, mais Dieu a promis, la promesse est pour moi. Donc, le pays n'était pas pour eux. Mais Caleb, c'était pour lui. À tel point que, malgré son âge, regardez, dans Josué 14. C'est que la foi peut quand même faire. Dans Josué 14, Caleb raconte, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet. » Cette parole, c'était pour moi. Dites amen à ça. Quand Dieu a parlé à Moïse là, quand il a dit Caleb, ce n'est pas l'autre Caleb là-bas. Non, 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 non. C'était pour moi. Il a dit ça où? Dans Nombre 14, je crois. Nombre 14, verset, on retient Josué 14. Dans Nombre 14, verset 20, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais, donc pardonne, Dieu pardonne au peuple, ça c'est selon sa miséricorde, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Vous savez? Après la prédication, je vois Caleb dire, « Ah, franchement, la prédication aujourd'hui, c'était pour moi. » Amen. Oui. Aujourd'hui, franchement, frère, c'était vraiment pour moi. Et c'était pour lui. Alors, il vient, il rappelle à Josué. Tu étais là quand Moïse avait prêché. Yes. Tu sais, donc au verset 6 de Josué 14, il dit, Caleb dit à Josué, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au lieu et au tien. Donc, ce jour-là, Dieu a parlé de moi. Toi aussi, quand j'ai dit aujourd'hui, Dieu a prêché, c'était pour moi, la prédication, c'était pour moi. Toi aussi, tu avais dit ce jour-là, ah frère, c'était non, c'était aussi pour moi. Amen. Donc, tu te souviens de ce jour-là? Oui, frère, je m'en souviens. Ben, à ce moment-là, j'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. » Et donc, la promesse que Dieu fait, « Partout foulera la plante de ton pied. » Josué 1, verset 3, dit, « Partout foulera la plante de ton pied. » Je te le donne, cette promesse, elle est réelle. Mais quand Dieu dit à Israël, à tout Israël, partout où ton pied, donc il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, eh bien, c'est prêché à toute l'assemblée, mais c'est destiné à ceux qui ont la foi. C'est destiné aux fils d'Abraham. Il dit, mes frères qui étaient pleinement la voix de l'Éternel. Donc, verset 9, et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. » Dites amen à ça. Mais Caleb, mais tu as des enfants qui ne marchent pas bien. Eh bien, Dieu a dit, hein, c'est pour moi et pour mes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Frère François, donc tu veux dire que si ces enfants marchent pas, Dieu a dit, c'est pour lui et pour ses enfants. Vous savez, Salomon, quand il a sombré dans l'idolâtrie, Dieu lui dit, je ne t'enlèverai pas ma bonté à cause de David, mon serviteur. Yes. Parce que Dieu a dit, je ne lui retirerai pas ma bonté. Quand Dieu dit, il dit, je ne suis pas là pour cautionner les gaffes. Hein. Salomon a commis sa gaffe, Dieu l'a puni certainement. Mais Joram est venu par après, c'est pas Joram, Roboam est venu par après. Eh bien, il a commis sa gaffe également, mais c'est dans la lignée de David. Quand il se couche, la Bible nous dit se coucher avec ses pères. C'est tout. La promesse est pour eux. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Alors, il dit, maintenant, voici, verset 10. L'Éternel m'a fait vivre. Amen. Comme il a dit. Donc, au moment où nous parlons ici, hein, ce soir, donc, l'héritage est pour Caleb à perpétuité. C'est-à-dire aujourd'hui, là, en 2022, là, ce territoire-là appartient à Caleb et à sa postérité. Où est-elle sa postérité? Moi, je n'en sais rien, mais Dieu le sait. Le test génétique pour voir si c'est un fils de Caleb, Dieu le saura. Yes. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, à perpétuité, c'est-à-dire tant qu'il y a un temps, c'est à perpétuité. Éternel, c'est là où il n'y a pas de temps. Donc, il dit, verset 10, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans, si le Seigneur tarde, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Gloire à Dieu. Comme au jour où Moïse m'envoya. Parce que Dieu ne va pas faire de sorte que vous deveniez impotent pour finalement vous donner un territoire dont vous ne jouirez même pas. Non, Dieu va faire de sorte que vous jouissiez de votre bénédiction. Oui, il faut que vous en jouissiez. Il a joui de sa montagne. Il dit, parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, si tu vas à la guerre, appelle-moi, il n'y a pas de problème. Soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne, ma montagne. Elle est peut-être difficile à grimper, mais c'est ma montagne. Je ne bande pas une vallée, non. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Il paraît qu'il y a des Anakim là-bas. Ben, donne-moi ma montagne, je vais aller la chercher. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, j'irai chercher ma montagne. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Amen. Comme l'Éternel a dit. Oh, on vous dit, quand vous avez le diabète, vous l'avez pour toute la vie. Vous êtes fils ou fille d'Abraham. La promesse de guérison, elle est à vous. Vous avez l'hypertension, vous dites que c'est pour toute votre vie. Les promesses divines, si vous êtes fils ou fille d'Abraham, les promesses sont pour vous. À perpétuité. Caleb s'est couché, mais la montagne lui appartient toujours. La santé vous appartient toujours. Elle est à vous. Amen. Gloire à Dieu. Christ, on le sait, il est la postérité d'Abraham. Et c'est en lui, comme on l'a dit tout à fait au début, c'est en lui que sont réunies toutes les promesses faites à Abraham. Vous savez comment Christ faisait? Il ne regardait pas aux symptômes. Frère François, mais ça, tu ne peux pas, tu tousses là. Non. Ça, la promesse, ça n'enlève pas, le tousser ne vous enlève pas la promesse. Frère François, mais ça ne guérit pas. Le temps ne vous enlève pas la promesse. C'est à perpétuité. La promesse est à moi. Je suis toujours vigoureux. S'il faut continuer à combattre, je vais combattre. Dans Marc chapitre 5, regardez comment le Seigneur se comportait. Les symptômes, vous parlez des symptômes. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ils viennent aussi avec leur rapport. Dites amen à ça. Ils viennent avec leur rapport, n'est-ce pas? Donc, ils disent ceci. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Ils disent à Jaïrus, laisse le maître tranquille, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais, regardez l'attitude du Seigneur, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il ne tient pas compte, n'est-ce pas, des symptômes qui lui sont rapportés. Il y a tel symptôme, il y a telle chose qui ne va pas. Lui, il s'en tenait à la parole. Dans Matthieu chapitre 11, je pense, quand, qui ça, Jean-Baptiste envoie ses disciples pour demander s'il devait en attendre un autre, si c'était bien lui qui devait venir, il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les malades guérissent, les paralytiques marchent. Il savait qu'il était venu pour ça. Dans Luc 4, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour ceci et cela. Il savait que c'était ça, c'était la promesse était pour lui et il savait que la chose était à lui. Dans ce qu'il dit à propos de Jean-Baptiste, il dit à Jean-Baptiste, les morts ressuscitent. La résurrection des morts, elle est là. Ouais. Et bien, quand il le dit, les rapports viennent, elle est morte. Il n'a pas tenu compte de ça. Je suis heureux que si on me met dans un trou ce soir, il a dit qu'il viendra. On va lui dire, quand il va dire, bon, je m'en vais chercher mon fils François, eh bien, on va lui dire, oh, mais François, il est déjà mort et enterré. Il ne tiendra pas compte de ça. Dites amen à ça. Il va venir, il va m'appeler. Où je serai, je ne sais pas. Mais je viendrai à lui. Vous y croyez? Amen. Moi, j'y crois de tout mon cœur. Donc, sans tenir compte de... Tenez, c'est la parole de Dieu qui a raison. Pas ce que nous voyons. Pas les symptômes que nous subissons. Non. La parole de Dieu a raison. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner. Mais oui, ils ont tous des rapports décourageants. Le Seigneur n'en veut pas dans votre maison. Il va arriver. Jairus, il n'osait plus parler. Il arrive chez Jairus, la première chose qu'il fait, il chasse un peu tous ces incrédules-là. Parce qu'ils vont les décourager. Jésus lui dit, crois la parole. C'est ce qu'il fait chez vous aussi. S'il y a des gens toujours négatifs, et vous avez tendance à croire, il viendra, d'une manière ou d'une autre, il va le chasser. Oh, il ne dira pas ça, mais la personne, à un moment ou à un autre, finira par ne plus se sentir à l'aise chez vous. Pourquoi? Parce qu'il vient toujours avec des rapports négatifs. Non, nous voulons quand même quelqu'un qui vienne avec un rapport positif. Amen. Comme je parle souvent de mes amis, les témoins de Jéhovah, vous savez, il ne frappe plus à ma porte. Hein. Ça fait longtemps, il ne frappe. D'ailleurs, il ne frappe pas ma porte. Pourtant, je les vois, certains samedis, je les vois circuler. Bon, maintenant, avec la pandémie, c'est vrai que je ne sais pas s'il continue à le faire. Mais il ne frappe plus à ma porte. Et même quand il venait et qu'il me promettait de revenir, ils ne sont jamais revenus. Mais vous venez toujours avec des rapports bizarres. Vous leur dites, moi, j'espère être enlevé. Et vous dites, non, ce n'est pas pour toi, c'est pour les membres. Ouais. Comment ça, c'est pour les membres ouais? Quand vous leur dites qu'il y a un paradis, ils disent, non, il n'y a pas de paradis. Quand vous mourrez, mais non, la Bible me dit autre chose. Jésus raconte la parabole, je dis ça une fois à une femme, je dis, mais il y a la parabole de cet homme qui est mort, Lazare, et le méchant qui est mort, le riche. Mais c'est une parabole, moi, que vous voulez me dire maintenant que cette parabole, mais non, c'est une parabole, c'est une image. Une image de quoi? C'est une image de quelque chose qui existe. Ils ont toujours des rapports décourageants, des rapports terre à terre. Or, Dieu nous promet des choses élevées. Des choses élevées. Oh. Dans Jean chapitre 11, pour vous montrer qu'il ne tient pas compte de toutes ces choses, Jean chapitre 11, à la mort de Lazare, on va terminer. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, le sépulcre, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Donc, il est mort il y a 4 jours. Il n'est pas mort il y a 2 heures, Seigneur. Il n'est pas mort juste 10 minutes avant que tu n'arrives. Il est mort, ça fait 4 jours. Et il sent déjà. Ça, c'est de nature à décourager quelqu'un. Mais le Seigneur, il ne tient pas compte de ça. Il est la résurrection et la vie. Il y croit. Amen. Il y croit. quand bien même vous êtes brûlé, incinéré, pourri, décomposé, sous terre, je n'en sais rien, on a scellé, quand bien même. On vous a utilisé dans des expériences, des trucs comme ça. Dieu, dans Ézéchiel, hein, Dieu a relevé des eaux desséchées. Fils de l'homme, ces eaux revivront-ils? C'était une vision. Il a dit, Seigneur, toi tu le sais. Nous y croyons, non? En la résurrection. Eh bien, le Seigneur, il ne tient pas compte de ça. Il sent déjà. Ça fait 4 jours. Ça fait ceci et cela. Eh bien, il ne tient pas compte de ça. Lui, il tient compte de ce que dit la parole. Celui qui croit, je le ressusciterai au dernier jour. C'est, nous tenons ça comme une ancre de notre âme. Nous y croyons de tout notre cœur. Mais vous savez, c'est la manière d'Abraham de croire. Abraham également, quand il croyait, c'était sans tenir compte des symptômes. Dans Romains chapitre 4, donc, ça montre bien combien il est fils d'Abraham, l'héritier de toutes choses. Romains chapitre 4, verset 19, il nous a dit, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps, il ne tenait pas compte que son corps était déjà usé. » Il n'a pas tenu compte de ça. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas tenu compte de ça. Vous non plus ne tenez pas compte de ça. La promesse de Dieu demeure. Ça va? Quand bien même on vous montre un cercueil, on dit c'est toi le prochain, c'est toi qui entreras là-dedans. C'est pas grave. Ayez foi que malgré le cercueil, vous en sortirez. Les Allemands ont tué des millions de Juifs dans des chambres à gaz. Ils ont été éparpillés à gauche, à droite. On les a tués, on les a brûlés, on en a fait tout un tas d'histoires. Mais cela ne l'empêchera pas de les ramener à la vie. Satan essaiera de nous faire croire que c'est fini, ils ont disparu à jamais. Ils n'ont pas disparu à jamais. Dieu ressuscite les morts. Et personne n'y échappera. Ça va? Et la promesse, elle est pour vous. Et toutes ces choses, c'est pour la postérité d'Abraham. C'est pour ceux qui y croient. Si vous croyez, vous êtes heureux. Dieu vous bénisse. Par contre, si vous ne croyez pas, vous êtes malheureux. Cela veut dire que vous passez votre temps dans les assemblées pour rien. Parce que si vous êtes un incroyant, je le répète, l'évangile ne vous fera aucun bien. Dites amen à ça. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est toi qui donnes la foi, comme dit Pierre, Paul. Il dit, nous sommes tous sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est un don gratuit de toi. Et elle vient de ce qu'on entend, la parole. Oh, cette merveilleuse parole qui renferme de merveilleuses promesses. Oh, et il nous a dit que toutes ces choses dont nous avons besoin, tu les as placées en Christ. Oh, malgré les difficultés, les persécutions que l'on peut subir en Christ, malgré toutes ces choses, les malheurs qui peuvent nous tomber dessus, cela ne nous enlève pas les promesses bénies que tu nous as faites. Nous sommes éprouvés, oh Père, mais notre foi témoignera justement, Père. Oh, témoignera justement de notre filiation, de la généalogie, si nous sommes ou non fils ou filles d'Abraham et pouvant prétendre aux promesses que tu as faites. Merci pour toutes ces merveilleuses promesses. Et nous savons que si tu les as faites, c'est parce que tu savais que ce sont des choses dont nous aurions besoin. Et nous te les demandons aujourd'hui. Bien sûr, nous rencontrons beaucoup de combats. Mais au travers de ces épreuves de la foi, lorsque nous voyons que le Seigneur tarde, Israël est tombé. Nous voyons que lorsque Moïse a tardé, Israël est tombé. Nous voyons que lorsque la promesse tarde, ta parole dit, si elle tarde, ce n'est pas grave, attends-la. Attends-la, elle s'accomplira. Aussi, c'est avec foi que nous attendons, sans nous décourager. Mais nous savons que l'épreuve de notre foi, ça finit par produire la patience. Aussi, Père, cette patience, nous voulons la, oh Dieu, que tu nous l'accordes, que nous soyons patients envers les uns les autres, que nous soyons patients envers tes promesses et que nous te soyons agréables. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour la soirée d'aujourd'hui. Oh, nous avons parfois de ces choses, de ces maladies opiniâtres qui nous collent, mais cela ne nous effraie pas. Oh, on a beau nous poser des questions, oh, ces symptômes qui peuvent nous être relevés, nous ne regardons pas cela, nous regardons ta promesse. Oh Seigneur, aussi que ta parole soit apportée, que des bons rapports soient donnés, que non, oh Seigneur, certainement, que l'on ne vienne pas, que nos oreilles soient bouchées au mauvais rapport, au rapport qui décourage, mais que nous soyons tout simplement ouverts à l'entièreté de ta parole afin de retrouver, oh Dieu, tout notre courage chaque fois que nous en aurons besoin et que nous puissions voir au travers de ta parole combien tu es Dieu, combien tu es grand, combien tu es tout-puissant. Cela nous remplira d'assurance et nous t'en remercions. Conduis-nous encore, ô Dieu. Si tu tardes à venir, nous nous attendrons toujours à toi pour les prochaines réunions qui viendront. Et alors que pour la soirée d'aujourd'hui, le rassemblement se termine, nous te demandons de bien vouloir accompagner chacun dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Seigneur bénisse.